Il est tout juste 20h et tout de suite, vous allez pouvoir retrouver une nouvelle émission de Génération Sport.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur le 101.5 FM ou sur le site internet www.radio-g.fr pour poursuivre avec nous votre belle soirée sur Radio G. C'est l'heure de Génération Sport, hein. Vous avez reconnu le générique bien évidemment. Aujourd'hui une émission très très chargée, déjà le studio est blindé, ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas vu ça, donc ça fait chaud au cœur. On va présenter d'abord l'équipe, puis on va essayer de présenter brièvement le programme de cette soirée. Alex est à la régie ce soir. Comment vas-tu, Alex?
Eh bien, ça va très bien, Max.
On ne fête pas quelque chose de particulier aujourd'hui, Alex?
Eh bien, si, je crois, puisque c'est la fin de notre service civique. Pour les auditeurs de Radio G qui sont là depuis 19h, enfin un petit peu avant 19h, eh bien voilà, on était là à l'antenne il y a un peu plus d'une heure.
Et à cette occasion, on invitera Pierre Benoît et Fadi, les deux salariés de Radio G, avec nous. Ce sera en fin d'émission. Cédric est actuellement en train de boire, mais il est évidemment avec nous dans l'émission. Est-ce que ça va, Cédric?
Ouais, il fait chaud, hein, chaud. En cette période de Roland-Garros, faut s'hydrater, hein, comme nos joueurs actuellement sur le terrain.
Oui, et ben belle transition, parce qu'on parlera évidemment de Roland-Garros avec c'est l'une des plus grosses actus sportives du moment. Faustin est une fois de plus avec nous. Comment ça va, Faustin?
Salut, ça va très bien.
Alors aujourd'hui, normalement, il n'y aura pas de chronique. C'est vrai, par manque de temps, on n'a pas pu placer de chronique. De toute façon, tu la gardes sous le coude pour la semaine prochaine. Est-ce que tu avais préparé ta chronique sur quoi? Quel était le sujet?
Je comptais parler des finales NBA qui vont démarrer jeudi.
Bon, voilà, comme ça, tu la feras la semaine prochaine et ça aura démarré.
On pourra en parler un petit peu dans le 1-2, si oui, on a le temps. Donc voilà, ouais, parfait.
Et de toute façon, tu sais, tu connais la maison, dès que tu as envie de prendre la parole, tu le fais, il n'y a pas de souci.
Alors, le frigo est au fond à droite. Hein,
et on reçoit donc trois invités qui vont représenter un club. On va parler floorball avec les Bandits de Bushmen. Alors, il y a trois personnes, je vais vous laisser, messieurs, prendre le micro chacun votre tour pour vous présenter brièvement. Allez-y, le micro rouge.
Le micro rouge.
Allez, on va y arriver.
On parle bien. Bonsoir. Donc, Julien, donc, trésorier, secrétaire des Bandits de Bushmen.
Ok.
Voilà, deuxième invité.
Bonsoir, Sébastien, président des Bandits de Bushmen.
Et le troisième.
Bonsoir, Nicolas, trésorier du club.
D'accord.
Donc on aura l'occasion, ça va arriver très vite, puisque notre traditionnel 1-2 va être décalé plus tard dans l'émission.
Oui, parce qu'il y a un problème de billetterie pour le
1-2. Nos invités n'ont pas pris leur billet. Bon, voilà, c'est comme ça, mais on doit faire avec. Ils sont passés les portails de Radio G.
Il y avait Cyril Hanouna pour laisser passer les gens.
Oui, il était là, Baba, évidemment. D'accord. Et donc c'est toi, Cédric, qui va t'occuper de cette interview avec les Bandits de Bushmen. Et puis, comme on l'a dit, après, il y aura un turnover et on laissera la place à Fadi et Pierre Benoît pour dans la deuxième partie de cette émission. Donc j'allais dire Fadi, non, Cédric, je te laisse la parole pour mener cette interview.
Voilà, parce que si on parle de floorball aujourd'hui, c'est parce que comme le reste des clubs qu'on a reçus cette année, c'est vrai que Angers, niveau organisation importante cette année, il y a eu beaucoup d'événements et lié notamment entre les mondiaux de hockey, les Coupes d'Europe, Coupe de France de Quidditch. Là, on va recevoir du coup le club de Bushmen de floorball pour un événement qui a une connotation un peu européenne. Donc je te laisse un petit peu en parler.
En effet, on va recevoir en fait un tournoi international qui s'appelle la Francophonie, donc qui a été créé une dizaine d'années, peut-être un peu plus. Où en fait c'est un tournoi un petit peu amical, mais qui reçoit les équipes belges, suisses et françaises. Donc après c'est un mix de tout ça. Chaque année en fait ça change de lieu. Donc nous, il y a 4 ans, avant tout ce qui est pandémie, on avait été à Hélessine en Belgique. Et puis du coup c'est là-bas en 2018 qu'on a postulé pour l'organiser, donc en 2020, puisque puisque l'attribution a lieu tous les deux ans, et donc c'était tombé sur nous. Mais bon, bah, avec deux ans de report, on peut l'organiser que cette année.
Alors avant de développer un peu plus le format du tournoi, puis les attentes, on va peut-être revenir un petit peu sur ce que c'est le floorball pour nos auditeurs qui n'auraient pas déjà entendu parler de ce sport, puisque vous étiez déjà venu par le passé déjà, ou en tout cas vous avez déjà participé à une émission sur Radio G pour présenter le sport.
Oui, tout à fait, ouais. Tiens, tu veux...
Oui, donc le floorball, c'est un dérivé du hockey sur glace, mais en salle de sport, donc sans patins, avec une crosse, une balle, qui fait une quarantaine de grammes. Donc pareil, avec 5 joueurs de champ, un gardien. Donc la particularité, c'est que le gardien est sans crosse et à genoux. Donc voilà, il prend tous les shoots. Hein.
Il est puni.
Voilà. Et donc les changements se font comme au hockey sur glace. Donc des changements par bloc et voilà, dans le jeu, par ligne. Et donc pareil, pénalité quasiment identique à celle du hockey sur glace. Donc dimension du terrain, c'est 40 par 20. Donc ça fait courir. Donc, voilà.
Discipline mixte ou pas?
Oui, discipline mixte. Alors, pas en première division, donc il y a une division féminine. Par contre, dans les divisions inférieures, oui, mixte, sans problème.
Et actuellement, le club de Bushmen est dans quelle division?
Alors, en division 3, donc on s'est lancé, donc pareil, à cause de la pandémie, on a un an de retard. On s'était lancé sur un projet avec notre coach en D3. Précédemment, on était en région et on a fait un projet sur 3 ans, donc pour intégrer la D3, donc avec des objectifs. Et l'objectif de cette année, c'était se qualifier pour les playoffs. Ce qu'on a fait, une découverte. Et donc maintenant, la seule décision, c'est d'y retourner absolument. Donc.
Là, c'est vrai qu'on va arriver bientôt en fin de saison. Pour les gens qui seraient intéressés, donc pour découvrir le sport, il va y avoir ce tournoi ce week-end. Mais on peut commencer à partir de quel âge
Alors sur Bushmen, donc on commence à partir de 4 ans. Voilà, donc c'est vraiment de la découverte. On
tâte un peu de la balle,
exactement,
plus voilà. Progressivement, on rajoute
voilà, la motricité. Voilà. Et après, voilà, ça part. Plus on commence jeune et effectivement plus la technique vient ensuite.
Et après c'est par catégorie d'âge.
Voilà, c'est ça.
Comme dans d'autres disciplines. Voilà. Et actuellement il y a beaucoup d'équipes dans les différentes catégories où il y a des tranches d'âge
alors,
plus ou moins.
Pour nous,
c'est compliqué et du coup on est obligé de faire des alliances ou des choses comme ça.
Sur Bushmen on a une équipe U7, U13 et donc on a une entente en U17. Avec les clubs de
Caen, Rennes et Tours.
Voilà, Caen, Rennes et Tours. Donc voilà, et comme c'est des week-ends centrés.
Là, par exemple, le week-end prochain, nos catégories U13 et U17 sont qualifiées pour les playoffs à Montbazon. Et du coup, depuis un mois et demi, on a fait Saint-Lô deux fois, Orléans, Bordeaux, Brest, avec toutes les équipes qu'on a en fait, que ce soit adultes. U13 et U17, comme les trois catégories d'équipes qu'on a et qui jouent en national, au niveau national, les trois se sont qualifiés pour les playoffs. Donc c'est vrai que ça fait des déplacements qui peuvent être un petit peu loin.
C'est vraiment par un manque de clubs dans les différentes régions ou...
Alors on n'a pas à se plaindre parce que je crois qu'en Pays de Loire, on doit être la région où il y a le plus de clubs de floorball. En France, il y a des régions, je crois que c'est en Occitanie par exemple, il n'y a que le club de Toulouse. Mais par contre, nous on a la chance d'avoir au moins 7 ou 8 clubs, rien que dans la région Pays de Loire.
Ah, donc on est une bonne région,
oui,
on est bons représentants.
Ça se développe bien, on est aussi une des rares régions à avoir une ligue régionale. Alors que le reste, en fait, c'est uniquement les clubs qui gèrent ensemble. Nous, on a la chance d'avoir tous les clubs, mais en plus de ça, il y a une ligue régionale qui gère un peu et qui chapeaute un peu les différents clubs de la région, donc des Pays de Loire.
Du coup, oui, c'est le fait d'avoir ce tournoi de la francophonie, quelque part, ça remercie un peu les efforts qui sont faits des différents clubs dans la Ligue Pays de Loire. Enfin,
Ouais, ouais. En fait, c'est un tournoi qui a eu lieu seulement deux fois en France. Là, ça sera la troisième. Je crois que la première fois c'était à Nantes et la deuxième fois au Pouliguen. Donc c'est le club de Nantes qui l'a organisé déjà deux fois. Mais ça jamais, il a jamais eu lieu ailleurs, sinon. Donc je pense qu'en effet, on voit que ça se développe plutôt pas mal sur le secteur ouest. Et je pense que c'est une manière de la part des Belges, qui sont les investigateurs de ce tournoi, de remercier aussi.
Et justement parce que on en déduit donc que la zone ouest du pays c'est la zone la plus développée dans le floorball, mais est-ce que c'est aussi le floorball en France, est-ce que c'est né dans l'ouest du pays ou un peu partout dans le pays?
Non, je crois qu'au départ, il y a une vingtaine d'années, si c'est je crois que c'est en fait des Suédois qui ont débarqué à Paris et qui ont créé un club universitaire. Et après, ça s'est développé. Et le club de Nantes, oui, est arrivé juste après, peut-être un ou deux ans après. Mais le club de Nantes est un des premiers, en effet, créés. Mais je crois que la toute première création, c'est ça, c'est des Suédois qui ont créé un club sur Paris, en fait.
Ok. Ah, parce qu'on pourrait penser que ce serait développé plus facilement avec le contact des frontières entre la Belgique et le nord de la France. On aurait pu penser qu'il y ait beaucoup plus de clubs finalement dans le nord de la France. Et finalement,
il y en a quelques-uns, hein, c'est sûr, mais beaucoup moins que dans la région. Mais
oui,
ouest,
c'est peut-être une petite particularité du coup.
Oui,
c'est étonnamment, mais. Justement, en termes. Parce que le club existe depuis combien de temps ?
Le club existe depuis 2016.
Depuis 2016. Et depuis 2016, vous avez vu une augmentation de l'intérêt de vos adhérents pour rester
pour plusieurs saisons. On est toujours à peu près équivalent, mais c'est surtout dans les jeunes qu'on commence vraiment à avoir. Un bon suivi, et chaque année, ceux qui signent une année reviennent à chaque fois qu'il y en a. Ça fait depuis même avant 2016 qu'on était dans un autre club qu'on a recréé un autre. Donc ils nous ont suivis, et là on voit vraiment les fruits du travail avec la qualification pour les playoffs. Donc peut-être pour un titre de champion de France, on ne sait jamais. Mais au moins on est dans les six premières équipes en U13 nationales et dans les neuf meilleures équipes françaises en U17.
Et vous êtes contacté par le milieu scolaire pour faire des initiations
On a fait quelques... avant la pandémie, on a pu en faire quelques-uns dans quelques écoles. Et plus quelques manifestations, même pour adultes, on a pu en faire pas mal. Donc ça commence à bien se développer quand même un peu partout.
Et justement, c'est vrai que c'est la question qu'on a posée assez régulièrement aux différents clubs qu'on a reçus cette année, mais la coupure de la pandémie, ça s'est passé comment au niveau du club? Vous avez réussi quand même à garder un lien entre les joueurs pour qu'ils puissent s'entraîner à distance, au moins sur des exercices un peu physiques, parce que forcément, faire du jeu, ça a dû être très compliqué de trouver des protocoles... pouvoir jouer quand même.
Notre coach nous avait mis quelques vidéos de quelques travaux à faire dans l'appartement ou en maison ou dans un jardin s'il y a qui pouvait, mais on pouvait faire toutes sortes. Mais au niveau groupe, quasiment tout le monde est revenu. C'est même qu'il y a eu des clubs, il y en a eu moins de nous. Quasiment tout le monde est revenu au jeu quand on a pu. Donc c'est ça qui est bien. En gros, c'est presque comme une famille.
En termes de projet pour d'évolution pour le club, c'est vrai que être un peu compliqué, ne serait-ce que financièrement, de la perte d'adhérents.
Mais même au niveau enfant, ça a vraiment bien suivi. Et tout le monde avait hâte de se retrouver et de rejouer ensemble.
Mais je trouve que c'est assez commun à ces associations où c'est pas des sports très très connus, ou comme vous venez de le dire, c'est plutôt une famille. Et justement, cette pandémie a été une vraie coupure, alors que je pense que dans des clubs de foot, de hand, de basket, il y a des jeunes qui ont été vraiment démoralisés et qui se sont dit on arrête le sport. Alors que là, dans des plus petites structures, des sports beaucoup moins connus, je pense qu'ils avaient juste envie que ça s'arrête et revenir en club, revenir faire ce sport, parce que oui, c'est juste une famille. Et voilà, donc heureusement que les plus petits clubs, j'ai envie de dire, et les sports les moins connus, aient gardé les licenciés, les bénévoles à l'intérieur. Est-ce que c'est vrai que sans ça, je pense que ça aurait été très très compliqué?
Ouais, non, c'est vrai que c'est souvent le souci de pouvoir garder ses adhérents le plus longtemps possible. Et là, oui, effectivement, pour une fois, bah, ça a été bénéfique quelque part. Au moins un bénéfice, enfin.
Oui,
dans cette
la
crise.
Pandémie n'est pas un bénéfice non plus.
On aurait préféré ça.
Non, mais voilà, oui, voilà. Non, mais c'est vrai que, comme tu disais, c'est vrai qu'il y a des clubs qui n'étaient pas loin de mettre la clé sous la porte. Donc,
Ah bah nous à Bouchemaine, par exemple, le club de basket, je crois qu'il a perdu quasiment presque un tiers de ses effectifs sur les deux ans. Donc, c'est vrai que j'en avais parlé avec les deux présidents d'époque et qui nous avaient dit que c'était très, très compliqué pour l'avenir, en fait.
Ouais, c'est plutôt des jeunes qui vont être attachés au sport plutôt qu'au club, véritablement.
Ah bah oui, c'est ça, ouais.
Bah, c'est très dur de fidéliser ces tranches d'âge-là, parce que déjà petit... Et on a tendance à faire plusieurs sports. Il arrive un moment où on en choisit un, et puis il y a un moment où on dit on en a marre, on passe sur un autre. Mais au bout de 6 mois, on passe. Et c'est vrai que
après, il y a aussi le fait, je pense que c'était des sports co, et les sports co, le souci aussi, c'est que il y avait énormément de barrages, de barrières par rapport à la pandémie. Je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui sont aussi mis après sur des sports individuels pour justement éviter ça, pour de l'athlé, ce genre de choses. Et apparemment, nous, au niveau sur Bushman, c'est ce qu'a le président du foot, du basket m'avait annoncé ça, c'est qu'il avait un peu sondé ses licenciés. Certains étaient partis vraiment sur des sports individuels. Donc par rapport à ça. Donc après, j'espère pour eux qu'ils ont récupéré des nouveaux licenciés ou qui sont revenus tout simplement.
Et du coup, la salle d'entraînement se situe où au niveau de Bouchemaine?
Alors, elle se situe au complexe sportif du Petit Vivier. Il n'y a qu'un complexe, de toute façon, à Bouchemaine pour le moment. Et nous, on s'entraîne dans la salle, on se partage la salle de tennis de table. Ok, une salle un peu plus petite, enfin, qui est moitié plus petite qu'une salle tradie, puisque de toute façon, à Bouchemaine, on n'a pas de salle de hand. Donc là, on attend. Normalement, il y a une nouvelle salle qui devrait être créée d'ici quelques temps. On attend.
Et pour les matchs, ce sera la même salle du coup ?
Non, en fait, pour les matchs, de toute façon, comme la nouvelle salle qui sera créée sera aux dimensions de basket, donc du coup, on récupérerait probablement la salle actuelle de basket, mais pour les matchs, il faudrait absolument, comme on fait habituellement, on loue la salle de la Cressonnière à Saint-Barth. C'est une habitude, ça fait des années qu'on fait ça. On a la possibilité d'avoir des gradins, donc pour le public, c'est plutôt pas mal. Il y a des vestiaires, donc et puis il y a un grand parking pour pouvoir se garer.
J'ai pu voir quelques diffusions de matchs en direct. C'est vrai que la salle a l'air d'être très bien, enfin, ne serait-ce que même le revêtement et choses comme ça.
Ah oui, puis
ça a l'air d'être une très belle salle pour pratiquer le sport.
Ils ont tout refait, c'est une salle qui est vraiment
très agréable.
Ouais, là-dessus, elle est vraiment excellente.
Est-ce que ça a été difficile de trouver cette salle pour vous? Parce que quand on parlait donc du Quidditch, il nous disait qu'il n'avait même pas de lieu pour s'entraîner, qu'il s'entraînait à côté de l'Université Saint-Serge sur l'Herbe. Et justement, vu qu'il n'y avait pas de salle à Bouchemaine, est-ce que ça a été un vrai frein pour vous pour organiser des matchs pour le championnat? Ou est-ce que le Saint-Barthélemy, la salle qu'on vous proposait à Saint-Barthélemy, a été une évidence et arrivée très vite dans le projet?
Non, on a cherché énormément, en fait, avant de trouver une salle adaptée. Beaucoup de refus de la part des mairies, puisqu'en fait, comme on n'était pas de la mairie en question, souvent on nous dit non, vous n'êtes pas prioritaire pour ça. La différence, c'est qu'après, on avait un bon filon avec l'adjoint au sport de la mairie de Saint-Barthélemy. Puis bon, après, c'est resté comme ça. Pour la francophonie, on avait démarché la mairie d'Angers. On pensait vraiment avoir un beau complexe aussi. Puis finalement, on est resté sur Saint-Barth parce qu'on estime que c'est quand même un très beau complexe. Et puis après, on est tellement habitués.
Oui, voilà.
Ceux qui viennent jouer contre nous toute l'année, que ce soit chez les jeunes ou chez les adultes, sont tellement habitués aussi. On peut même en parler. Cette année, nous, on s'est déplacé à Bordeaux, à Brest, à Rennes. Quand on voit l'état des complexes, on se dit c'est juste hallucinant de voir des équipes faire des matchs sur des revêtements où vous avez un sol qui est complètement... on peut même le dire, pourri, des vestiaires qui sont même pas... C'est pas innommable de citer des vestiaires comme ça. Nous, quand on est arrivé sur Rennes, les joueurs de Rennes nous ont dit « Vous aurez probablement jamais vu des vestiaires comme ça. » Et nous, quand on est rentré, on s'est dit « Mais c'est pas possible de prendre sa douche dans des salles comme ça, quoi. » Donc on se dit que finalement, on comprend pourquoi on loue cette salle. Ça a un coût, certes, mais après, on comprend pourquoi on le fait, quoi.
Oui.
Mais maintenant, c'est vrai que comme ça se passe bien avec la mairie de Saint-Barth, bon bah du coup on reste là-dessus quoi. Enfin ça reste.
Puis pour faire le lien, je pense que aussi ça, avoir un bon complexe, ça fidélise aussi les licenciés.
Ouais.
Parce que si le club de Rennes, justement voilà, c'est un complexe dégradé avec du matériel à la limite de l'acceptable, bah là forcément que. Mais en même plus avec cette pandémie, les jeunes peuvent se dire, bah, est-ce que je fais bien de rester quoi.
C'est ça. Même pour eux, hein, nous on comprend pas. Hein, on se dit une mairie comme Rennes, on se dit c'est pas normal qu'en fait un club ne mérite pas. Enfin il mérite bien mieux en termes de complexe. Il y a pas de stationnement, c'est extrêmement compliqué. Vraiment, nous on comprend pas en fait. Hein. Sur Brest, ils ont un peu le même souci aussi, je trouve. Mais bon bah après, on fait avec ce qu'on peut. Hein. Ça reste des sports mineurs, donc je pense que tant qu'on n'est pas avec 500 licenciés, je suis pas sûr que les communes nous écoutent.
Ouais,
non
ça,
plus,
c'est ça le problème.
Et dans, y a jamais eu une envie quelque part de même. Enfin, ça se passe bien, je pense, avec la mairie de Bushman, de justement de tout délocaliser du coup sur Saint-Barth. Pour avoir du coup au final tout le temps cette salle là aussi bien pour les entraînements que pour les matchs.
Si ça nous est arrivé, parce que c'est vrai que le problème de jouer dans une petite salle, on va pas se cacher, c'est que on peut pas accueillir trop de personnes non plus. C'est-à-dire que si on voulait monter d'un cran en termes d'effectifs, on peut pas, puisqu'en fait on a une salle qui est pas forcément adaptée. Maintenant, il faut aussi se dire que on avait proposé aux parents de éventuellement, si on changeait, le souci majeur, c'est qu'on perd quasiment tous nos jeunes. Parce que là, en fait, tous nos jeunes habitent aux alentours du complexe. Donc, c'est déjà. On a cette chance d'avoir les deux tiers de notre effectif, ce sont des jeunes. Donc, après, bon, bah, on prend notre mal en patience. Alors, si ce qu'on fait, c'est ce qu'on a fait toute l'année. On a loué le complexe de la Cressonnière une dizaine de fois. Alors vous allez me dire c'est un coût, mais en fait on l'a loué pour faire des entraînements en grande salle. Donc en fait il faut qu'on emmène par contre notre rink. Donc à chaque fois on loue un camion pour emmener notre rink, nos buts. Après c'est un coût, mais bon bah après c'est le choix qu'on a fait dès le début d'année pour que nos licenciés soient fidèles, restent avec nous, et puis surtout qu'on essaye d'avoir une équipe la plus compétitive
ouais,
possible.
Puisse faire ça dans de bonnes conditions.
C'est ça. Voilà. Ouais, ouais.
Et même au-delà de fidéliser les jeunes et les équipes, malheureusement, les sports qui bénéficient le moins de médiatisation sont obligés au départ de mettre beaucoup d'investissements aussi bien financiers que personnels
ouais.
pour espérer grandir et être plus ou moins reconnus par les mairies. Et après, on verra par la suite.
Parce que c'est pas une question de taille de commune au final.
Ah non, du tout.
C'est
du
vraiment
tout.
Le
après, le complexe, c'est comme ça à Bushman. Après, on va pas se cacher non plus. Hein. On est déjà au chaud. On a connu le club de Bordeaux qui s'est entraîné sur les bords de la Garonne pendant trois ans dehors. Donc, voilà, faut savoir aussi se dire que bon, bah, on n'a pas une salle adaptée à nos besoins, mais au moins, on est au chaud, quoi.
Faut relativiser.
C'est ça, on relativise toujours. Ouais.
Amis bordelais et rennais, nous pensons à vous.
Bah venez à Bushman en fait.
Voilà. Transférez vos joueurs et voilà.
Pause musicale.
On va marquer une petite pause musicale avant d'attaquer le gros de l'événement, j'ai envie de dire.
Ça marche. On reviendra donc juste après cette petite musique. On va s'écouter Diams et le titre Enfant du désert.
Je suis sorti de ma bulle, j'ai pris le temps de regarder le monde et d'observer la lune. Donc voici la nouvelle Diam sans paix avec elle-même. Je préfère que ça parte aux enfants du désert. Aux enfants du désert.
Ok, ok. La vie n'est qu'une course. Et moi j'étais première dans les starters. Qu'est-ce t'as à faire quand t'as pas peur hein? Dis-moi, qu'est-ce t'as à perdre? Rien. Alors tu cours après le flou. Tu coules sous les coups, tu l'ouvres. Tu cours, tu souffres et puis tu prouves. Bah ouais mec, faut être honnête. Mais trouve le mot rendu poète. Au point qu'on met à ma dispo. De quoi me toucher au mot web. Hélicoptère, taxi et jet. Je suis monté sans mes tickets. Du terre-terre, t'accèdes au ciel. Mais tout d'un coup tu fais pitié. Quand t'as de l'oseille, ouais. Trop bœuf, crève, trop veulent test. Mec, ton père revient te check. Ton père ennemi devient ton ex, ouais. Petite princesse, n'ai fait que fuir. Pour mieux reluire, première ou business au pire. Tant que j'avais des sièges en cuir. Dans cette course au billet rose, j'ai vu mourir mes héros. Dans les coulisses, ça sent la coke. Et chez les stars, c'est l'héros. Moi comme une tâche, j'ai couru. Après le commerce et les dollars. Au point d'avoir au poignet la même Rolex que Nicolas. Alors je suis sorti de ma bulle. J'ai pris le temps de regarder l'Afrique et de contempler la lune. Cette société n'est qu'une enclume. J'ai couru après le fric qui taille, c'est ma plume. force et des forces, collectionner les cartes à code, black ou gold. Après le iPhone, il me faut le gold et le iPod. Et puis la Xbox connectée à la Wi-Fi. Soirée Sims entre filles, on se connecte en Wi-Fi. Oui, je suis in, on dit que je suis branché. Un peu comme vous tous, non, je veux pas vous déranger. Je passerai plus tard en Bluetooth, à l'aise dans mes Air Force. Je rêve Vincent Air Force. Et puis j'écris des rap par corps sur le tarmac, l'aéroport. J'ai à l'index la même bague que Carla, mais elle ne me sert à rien sous les étoiles de Tala. Désert de sable contre désert de désespoir, elle a désert de victoire. Ma jeunesse n'est pas le choix des armes, vu que l'État nous prive de tout. Elle trime et tous, poussée par le crime, elle trouve refuge dans le deal ou autre trou. Triste pays qui compte sur les voix de Le Pen pour qu'accède au sommet des gros capitalistes de merde. Alors je suis sorti de ma bulle, j'ai pris le temps de regarder l'Afrique et de contempler la lune. Cette société n'est qu'une enclume. J'ai couru après le fric qui t'a laissé ma plume. Dans cette course au succès, je crois que j'ai connu l'enfer. Ma sœur, mon frère, je préfère que ça parte aux enfants du désert. Car je n'emporterai rien sous terre. Petit banlieusard issu du 9-1, fier de mon essonne, fier de mon essor. Je voulais que ma voix résonne dans tous les stores. Et puis si Dieu teste les hommes, je veux être digne d'aimer. Et à tous ceux qui triment, sachez que je veux être digne de vous aider. Parce qu'aujourd'hui j'ai tout connu, l'opulence et la thune, la déprime, les écus, les ambulances et la rue. Je sais de quoi je suis capable, je sais de quoi l'État est coupable.
Et voilà, on va couper donc cette musique de Diams pour reprendre le fil de notre émission. On est avec les Bandits de Bushmen pour parler du tournoi de la francophonie qui aura lieu bientôt du côté de Saint-Barthélemy d'Anjou. Et puis je vais laisser la parole à Cédric pour la suite de l'interview.
Oui, bah on va passer justement à cet événement donc, qui aura lieu du 4 au 5 juin. Donc on peut peut-être donner l'adresse du coup de la salle. Si vous l'avez après.
Ouais, c'est la rue Saint-Jean à Saint-Barthélemy, la Cressonnière. Donc c'est au niveau de la route du Plessis-Gramois.
Ouais, donc c'est facilement accessible. Oui. Voilà, donc si vous savez pas quoi faire ce week-end, de toute façon, la finale de Roland-Garros, vous pouvez la regarder en replay. Donc.
Et puis, il y aura une buvette aussi pour ceux qui veulent.
Ah voilà, voilà. C'est l'argument, voilà.
On n'irait pas là-bas, alors.
Il y aura à boire, il y aura à manger, il y aura voilà. Du sport. C'est comme un Roland-Garros, hein.
C'est des bonnes choses.
En termes d'horaire, ça sera de quelle heure à quelle heure?
Je crois que ça démarre le samedi matin sur les coups de 10h. Et ça finit le soir vers 18-19h. Après, c'est gros repas avec toutes les équipes présentes. Et puis, c'est en mode camping, puisque tout le monde a décidé de dormir sur place.
Oui, parce que même ce que j'ai pu voir sur la page Facebook de l'événement, ça a même commencé pour les équipes un petit peu dès vendredi soir.
Alors, ouais,
nous, pour certaines.
C'est ça. Nous, on arrive le vendredi arrivent, soir voilà. Parce que les Belges arrivent de bonne heure. Ils veulent déjà faire la fête le vendredi.
Bon, on sait que les Belges seront pas au point de le lendemain, c'est bon, une équipe de moins. Bon.
Et puis, bah, on a loué une structure gonflable plutôt sympa, donc je pense qu'il y a tout le monde qui est motivé pour attaquer dès le vendredi.
Alors, si c'est la structure qui a été mise en vidéo, oui, ça a l'air d'être sympathique.
C'est exactement ça, ouais.
Sans spoiler, ça ressemble un petit peu à un stand de tir ouais. Gonflable. Donc cet événement-là, c'est 7 clubs.
Oui, c'est ça.
C'est
ouais.
Ça.
Plus ouais, enfin un... non. C'est un peu plus compliqué parce que par exemple, il y a une équipe qui va être partagée sur 5 ou 6 clubs. Donc il va y avoir un mélange de joueurs de Lyon, Grenoble, des joueurs d'équipe de Paris, de joueurs belges. Donc en fait, à mon avis,
c'est l'équipe qui a appelé All Star du coup.
Non, du tout. Non, c'est une autre équipe qui s'appellera les All Boys. Et en fait, du coup, il y a plusieurs équipes. Je crois que l'équipe de Saint-Lô vient avec des joueurs de Rennes, vient avec des joueurs d'autres équipes aussi. Donc non, ça va être vraiment un mélange. Je pense qu'il y a une bonne vingtaine de clubs représentés.
D'accord. Mais pour un total au final de
cette équipe, enfin plus la huitième.
Plus la huitième, voilà. On va les citer du coup, parce qu'ils ne sont pas nombreux, et puis ça permet de leur faire un coucou. Donc il y a les UBU, les All Boys. Alors moi, quand j'ai vu ce nom-là, ça m'a fait penser à une équipe suisse, ouais. À cause des All Boys de Berne. Ouais. On a donc les Celtics de Brest, donc la Ligue des Pays de Loire. Ouais. Donc là, c'est un rassemblement.
C'est ça, ouais. En fait, quand ça a lieu en, fait, en région Pays de Loire, ce qui a toujours eu le cas, du coup, le club qu'organise a sa propre équipe, donc nous, les bandits de Bushmen. Et donc, l'équipe des Pays de Loire sera composée de joueurs de Nantes, du Mans, de Renazé, de Laval, alors que j'en oublie pas, des Ponce, et du Lyon d'Angers.
D'accord. Donc ensuite, on a les Corsaires de Saint-Lô. Les Suisses Apéro Team. Du coup, c'est les Suisses ou les Belges les meilleurs, voilà, pour l'apéro, c'est là, c'est, on fait comment?
Je dirais que c'est les Belges.
Et bien sûr, donc du coup, bah, les Bandits de Bushmen et la All-Star Team, donc, qui sera composée de joueurs de toutes ces équipes-là.
C'est ça, la All-Star, en fait, c'est une équipe, pour éviter d'avoir deux poules, une de 3, une de 4, on avait décidé de faire deux poules de 4. Et la All-Star, en fait, ça sera ceux qui ont envie de jouer en plus, plus de matchs. Ils se mélangeront pour faire une équipe en plus, quoi.
Là, c'est des matchs, quelque part, qui sont sans intérêt vis-à-vis du tournoi, mais plus dans le plaisir de rejouer avec tout le monde,
ouais.
Même s'ils vont compter pour les phases de poules, je pense.
Exactement, ouais. Voilà. Ouais, c'est ça.
Donc du coup, ça va se dérouler en deux phases de poule et ensuite phase en match en tableau.
Vas-y, moi j'ai pas géré ça.
Après, c'est en match en tableau le dimanche, ça commencera à 10h. Donc après, le premier rencontrera le quatrième, après il y aura les demi-finales, tout ce qui est finale. Donc ça finira vers à peu près 15h30, 16h.
D'accord, ouais, toutes les équipes rejoueront quand même le dimanche.
Oui, il y aura moins de matchs pour toutes les équipes.
Au moins c'est bien, ça permet de partager un petit peu plus. Et puis c'est vrai que bon, pour les équipes qui viennent de loin,
oui,
se faire sortir dès le samedi, ça serait un peu dommage.
Bon, heureusement qu'il y a la buvette.
Oui, aussi.
Oui, ils se consoleront dans la buvette.
Ou ils fêteront avec la buvette.
Oui, voilà.
Mais bon, dans ces cas-là, c'est amer comme buvette.
Oui, bon.
Donc, du coup, ça, en termes d'organisation, ça s'est passé donc, par attribution par les Belges. Donc, c'est les Belges qui sont à l'origine de ce tournoi.
Oui, c'est ça. Deux personnes venant de Belgique en fait qui ont créé ce tournoi en fait.
D'accord. Décidément, la Belgique en ce moment, on en parle beaucoup
on en parle
dans
pas
l'émission.
Mal, ouais.
Donc du coup, pour le club de Bushmen, des petites ambitions particulières sur ce tournoi, ou c'est vraiment on y va pour se faire plaisir?
Non, et... franchement, vu la saison qu'on a passée, on y va vraiment en mode cool. Bon, après, le but, ça va être quand même de gagner, hein, des matchs. Moi, personnellement, je pars pas dans l'ambition de tout rafler. J'ai vraiment envie de passer un bon moment. On a énormément d'amis dans toutes les équipes qui arrivent, même dans les équipes belges. Donc, on a vraiment envie de passer, enfin, moi, de passer un bon moment avec eux. Après, je sais pas, mes collègues, ce qu'ils en pensent.
Oui, c'est vraiment un moment festif, donc on est vraiment... alors, on est dans la compétition, mais vraiment pour se faire plaisir. Je pense que la majorité, de toute façon, c'est le credo de ce tournoi, c'est vraiment la convivialité et de prendre du plaisir à jouer. Et de se retrouver justement pendant les matchs, après les matchs, et voilà, pendant un week-end, voilà, avec toutes les nationalités.
Et au courant de l'année, justement, ça... est-ce que ça arrive qu'il y ait des échanges interclubs, juste des entraînements communs, par exemple sur les périodes de vacances ou sur des périodes de vacances un peu plus longues, d'aller justement rejoindre les Suisses, les Belges pour...
Non, ça nous est jamais arrivé, mais je sais pas si dans d'autres clubs ça le fait. Mais
d'où l'intérêt, au-delà du tournoi, c'est vraiment oui de se retrouver avec les différentes méthodes de jeu, tout ça.
Oui, c'est ça. Et on découvre du jeu et c'est pas facile à jouer. Donc
c'est une petite Ligue des Nations au final.
Voilà.
Et justement, au-delà de ça, je suppose qu'au niveau du club, c'est une petite pression supplémentaire, ne serait-ce que pour tout le bureau, tout ça. Au niveau des adhérents, ils ont tout de suite adhéré au projet en se proposant pour aider, ou ça a été un peu compliqué de ce point de vue-là?
Alors c'est vrai que le bureau fait beaucoup de choses, mais c'est vrai que les adhérents ont vraiment adhéré au projet de la Franco. C'est vrai que on nous a pris un peu pour des fous déjà, parce que ça fait déjà 2 ans qu'on veut l'organiser. Donc quand on a amené le projet, c'était il y a quatre ans. Donc oui, on n'avait pas encore organisé de tournoi comme ça, donc on a
qu'avec 2 ans.
Voilà, donc c'était.
Ouais, c'est une grosse ambition. C'est un petit peu les petits nouveaux. On arrive, on est là. Les anciens, hop.
C'est vrai que tout le monde, tout le monde veut ce tournoi et tout le monde veut participer à ce tournoi. On est tous. Tous dans le même bateau et on va arriver à faire un très très bon tournoi.
Et puis au-delà de ça, sans forcément les citer pour, à cause des règles du CSA, il y a aussi des partenaires économiques qui aident le club, ne serait-ce que peut-être un peu plus aussi sur ce tournoi-là.
Oui, en effet, ouais.
Mmh. Ouais, juste le micro. Si vous voulez intervenir.
Oui, en effet, on a quelques partenaires quand même qui nous suivent, on n'a pas à se plaindre là-dessus, qui nous ont bien aidés. Mais bon, j'ignorais qu'on n'avait pas le droit de les citer. Donc,
Disons qu'on peut les citer, mais il en faut 3. Mais s'il y en a un peu plus de 3, ça va être un peu plus compliqué. Mais bon. Oui. Des questions justement par rapport au tournoi ou le club
Moi, sur le club, peut-être, je me posais la question au début d'émission. Pourquoi cette implantation à Bushman? Est-ce qu'il y a, peut-être des gens qui se réunissent? Vous êtes peut-être tous originaires de Bushman. Pourquoi pas Angers? C'est aussi une question qu'on peut se poser.
Alors, à Bushman, au départ, moi, j'y habite. Je suis artisan commerçant, donc ça a été beaucoup plus simple pour moi pour trouver la salle. Sur Angers, la difficulté, c'est de trouver des salles.
Ouais.
Donc, on le voit bien, il y a d'autres clubs concurrents, mais il y a d'autres clubs de floorball sur Angers. C'est extrêmement compliqué pour eux de trouver des salles. Donc, on ne s'est pas lancé sur ce registre. Okay.
C'est un des freins, faut le dire. Ouais.
Les salles existent, mais c'est les créneaux qui n'existent. Qui existent, mais qui sont compliqué à avoir.
Ouais. Et le nom, les bandits de Bushman, ça vient d'où?
Alors en fait, on s'appelle les bandits parce qu'en fait, ce sport vient des pays nordiques. Et en Suède, ce sport s'appelle Innebandy. Donc ça ne s'écrit pas comme bandit, comme le nom du club. Ça s'écrit du coup I-N-E-B-A-N-D-Y. Et en fait, on a voulu faire un rappel par rapport à ça. Donc on a des clubs d'autres clubs où c'est les Celtics, les Corsaires. Nous, on s'est dit que ça pouvait être sympa de s'appeler les Bandits. Donc ça nous pose parfois préjudice quand on veut démarcher quelques partenaires, notamment des agents immobiliers qui nous disent que ils ne veulent pas que leur nom soit
associé
à des Bandits.
Ah oui, c'est quand même ça a des conséquences.
Oui, ça a des conséquences, ouais. À la création du club, on n'a pas du tout pensé à ça. Bon, honnêtement, on le regrette pas.
Bah non.
Parce qu'on trouve ça sympa. Notre logo est assez original aussi, donc on s'est dit que c'était plutôt pas mal. Ça fait parler aussi.
Oui,
c'est l'avantage.
On arrive quand même à avoir quelques partenaires qui croient depuis le début de la création quand même.
Oui.
Est-ce qu'ils sont plus bandits que les bandits? On ne sait pas. Non, mais c'est vrai que.
Rendez-vous ce week-end pour le savoir.
Voilà. Non, mais c'est vrai que, ça peut paraître un petit peu ridicule. J'imagine quand on va démarcher une entreprise puis qu'on dit bah non, on veut pas être associé juste pour un nom, alors que derrière ils savent que c'est. Enfin, c'est beaucoup plus simple, je pense, même pour eux, de l'expliquer à leurs différents partenaires. Ou actionnaire que un nom qui ne parle pas, là je veux dire l'explication elle est simple pourtant.
Oui, tout à fait, ouais. Bah, même que il y a 2 ans, 3 ans, j'ai un ami qui faisait un thème sur le floorball et en fait on a appris que notre club, notre logo et notre nom avaient été copiés sur un club de Côte d'Ivoire. En fait, qui s'appelait le Cocody en fait de Bushman aussi. Donc c'est un club qui a été créé en 2017 et en fait ils avaient repris le même nom juste en rajoutant en fait. Donc ça nous avait fait rire parce qu'ils avaient copié vraiment la totalité du logo et même le nom de la commune.
Comme quoi, il y a même des brouteurs dans le floorball. Hein.
Le président de la Fédé de Côte d'Ivoire m'avait même contacté pour on voulait porter plainte. Donc on avait trouvé que ça faisait le buzz. On avait dit bon, laissez, il y a pas de souci quoi. Mais ça nous nous avait plus fait rire qu'autre chose.
Ouais, puis ils ont été honnêtes finalement.
Oui,
ils
sont rentrés en contact. Ah bah oui, c'est ça, ouais. Donc nous, non, mais on a trouvé ça plutôt pas mal. Donc on s'est dit, c'est que finalement le logo et le terme, le nom, c'est finalement, on s'est peut-être pas trop trompé.
Il faut les inviter dans un tournoi de la francophonie. Ça serait parfait là.
Le problème, c'est que la Côte d'Ivoire rentre pas dans le terme francophonie.
On va créer en partenariat Génération Sport, on va créer le tournoi international de floorball.
Je sais pas si Fossin, par exemple, tu as une petite question pour nos invités.
Ouais, moi je me demandais sur le sport plus en général, c'est un sport qui a pas trop de visibilité, et je me demandais où est-ce qu'on peut le regarder.
C'est dommage, la semaine dernière c'était les qualifications pour la Coupe du Monde qui auront lieu en Suisse en novembre prochain. Et en fait, on voyait plein de matchs sur YouTube notamment. Notre coach qui fait partie de l'équipe de France aussi était présent en Lettonie du coup. Donc du coup c'est dommage parce que ça aurait permis, en plus je crois que sur notre page on a partagé les trois matchs de qualif des Bleus. Malheureusement, ils ne sont pas qualifiés. Après, le niveau est quand même très très élevé. Mais c'était l'occasion en fait de revoir les matchs. Donc, faut pas hésiter à aller voir sur notre page et retrouver les liens en fait des matchs en fait.
Et puis des fois, ça pop par hasard sur Twitch.
Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie une dernière fois, messieurs. Je vais juste vous
peut-être un dernier mot justement.
Oui, puis rappeler l'événement,
pour
les dates,
les
précises,
gens à venir,
le programme. Voilà, la parole est à vous, puis si vous avez un dernier mot à dire, c'est le moment.
Voilà, donc rendez-vous à la salle de la Cressonnière à Saint-Barth le week-end prochain, donc du 4 et 5 juin pour le tournoi de la francophonie. On vous attend nombreux, entrée libre bien sûr, et voilà, donc on sera très content de vous recevoir et de vous expliquer ce sport.
Et justement, est-ce qu'il y a des initiations qui seront mises en place en parallèle du tournoi ou...
Alors pendant le tournoi ça risque d'être compliqué je pense, mais par contre à partir de nous tout l'été on garde la salle, donc en fait on fait des initiations tout juin, juillet,
d'accord, donc
août.
Oui, il n'y aura pas de coupure pour venir découvrir le
problème
sport.
C'est que les matchs s'enchaînent, donc il voilà. N'y a même pas de coupure le midi.
Même cet été du coup
il n'y a pas de coupure, il suffit de prendre contact avec nous sur la page Facebook, il y a le numéro de téléphone et puis après ça s'organise, mais il n'y a pas de souci. On fera aussi le Vital Sport à D4 au mois de septembre.
Bon, et ben au moins ça c'est clair. On vous remercie une fois de plus, messieurs. Nous, on va marquer une courte pause musicale et puis on va faire un changement d'équipe.
Over,
Cédric, tu nous quittes aussi ?
Ouais.
Et ben
je vais aller manger tout en suivant le
gros
le
match.
Choc des Titans.
On en parlera dans la prochaine suite.
Et ça, on peut le souligner parce que ça a été un peu polémique vu l'envergure de ce match. Disponible pour tous,
ouais, c'est
sans
vrai, on
inscription.
En parlera.
Sur Amazon Prime. France Télévisions, France 2, France 3, comme ça on a respecté les compteurs, faisait un petit peu la tête par rapport à cet événement-là, mais du coup on peut saluer le beau geste de Amazon.
C'est vrai. En tout cas, merci à vous quatre, du coup, messieurs, et puis nous, petite pause musicale, et on se retrouvera juste après avec Fadi et Pierre Benoît. À tout de suite.
retour dans Génération Sport pour la suite de votre émission sportive de Radio G. On est ensemble pour les quelques minutes qui nous restent. Le timing va être très serré puisqu'on a l'intervention de deux habitués de la radio. Alors, je vous préviens directement, chers auditeurs, on est avec quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vannes.
Le micro, il est allumé là ?
Le micro, tous les micros sont allumés.
Parfait.
Donc voilà, on évite de dire des bêtises, Pierre Benoît.
Vous avez reconnu, évidemment, Fadi et Pierre Benoît nous accompagne dans ces dernières minutes de l'émission. Bonsoir messieurs.
Bonsoir monsieur.
Bonsoir. De toute façon, on s'est entendu il y a deux heures, donc re-coucou à ceux qui n'ont pas quitté.
On est habitué de vous entendre sur le 101.5 FM. Est-ce que vous pouvez nous rappeler aux auditeurs à quel moment vous apparaissez sur la grille des programmes ?
Juste, en fait, la dernière fois, vous étiez en service civique, oui. On se disait au revoir. Là, vous nous dites au revoir parce qu'on quitte notre emploi ?
Non, vous invite. Là, apparemment, vous n'êtes plus salarié, vous n'avez plus la casquette de salarié.
Nous sommes tous bénévoles ici.
Ah, bien sûr. Sommes tous bénévoles. Alors, ta question, Max.
Oui. Quand est-ce qu'on peut te retrouver sur le 101.5 FM, Pierre Benoît ?
Eh bien, tous les soirs, à partir de 18h10, enfin tous les soirs non, puisque c'est seulement du lundi au jeudi, pour la quotidienne des agitations locales, culturelles du 101.5 FM, la bonne fréquence angevine pour se tenir au courant de ce qui se passe à Angers et aux alentours. C'est long. Et c'est jusqu'à 19h.
Merci, merci.
Relou, Fadi.
Et Fadi, même question, quand est-ce qu'on peut t'écouter ?
Une semaine sur deux le jeudi à 13h pour Génération, l'émission jeunesse pour les 16-25 ans. Et une semaine sur deux le vendredi à 22h dans l'émission Dans le salon de Judy, une émission où on accueille un invité et on termine la semaine avec et on...
Pas d'émission de Génération cette semaine, mais Génération la semaine prochaine. C'est
exactement,
ça
cette semaine, c'est dans le salon de Judy vendredi.
Ok,
très bien.
Bon, on va reprendre le fil de notre émission, puisque c'est du rock. Deux éléments perturbateurs qu'on va pas continuer. On va parler actu sportif dès maintenant, Alex. Comment tu veux faire
Je pense qu'on va commencer par leur chronique.
Ok.
L'émission en même temps.
Le petit Fadi m'a l'air très chaud et a préparé une belle chronique.
Puisque
c'est une chronique qui va parler de judo et c'est vrai que l'émission d'abord vient des arts martiaux avec Kwanav dans Dojo, donc c'est un retour aux sources.
Bisous
à Yann.
Fadi, tu as une ceinture noire.
Exactement, du coup je suis ceinture noire mais pas sur moi et justement c'est pas juste un titre ou un truc qu'on dit vite fait, le terme ceinture noire. Pour l'histoire, moi j'ai fait du judo pendant 11 ans, ma mère m'a inscrit pour contrôler mes pulsions de colère et ça a marché de ouf, maintenant je suis zen. Bref, je me suis investi comme un fou pendant 10 ans à base de j'étais un élève d'abord, après j'ai aidé mon prof en cours et après j'ai mené quelques cours. Pour ceux qui sont dans des clubs et qui ont le même délire, vous devez comprendre. Bon, je vous apprends rien dans cette émission les gars, puisque vous avez fait quoi de neuf dans le dojo, dédicace à Yann bien sûr.
Oui.
Mais j'ai franchi donc toutes mes ceintures de judo jusqu'à la ceinture bleue, et à partir de la ceinture bleue tu dois passer des épreuves pour avoir la ceinture marron, et c'est ce qu'on appelle des katas. Les katas, c'est genre une série de mouvements précis que tu dois maîtriser et ça montre que tu as la base principale du judo. Et ben frérot, c'était archi dur, j'ai galéré pendant un an mais j'ai pu l'avoir, genre j'étais trop fier. Et surtout, en même temps que les katas, il fallait marquer des points en championnat officiel pour valider la ceinture marron. Et petit problème, moi le judo ça m'a appris à canaliser ma colère et pas à me battre. Du coup, imagine comment j'ai galéré à me battre en championnat pour gagner des points. Bref, j'ai eu ma ceinture marron, trop content. Tout l'été avant la saison suivante, je me suis motivé de ouf à passer la ceinture noire. Et la ceinture noire, c'est de mémoire 100 points en compétition officielle, un niveau d'arbitrage minimal et les katas avec des suppléments par rapport à la ceinture noire. Et en septembre, je démarre. Arbitrage easy, les combats, bah vu que je me combats pas, je galère très lentement, et les katas, ça va, ça avance. Et en un an, j'avais large le temps. Bref, j'étais arrivé à 70 points quand je m'explose l'épaule en combat. On me projette, mon épaule touche le sol et mon épaule reste au sol. Voilà, c'est ça l'histoire.
Ah.
Du coup, je pars à l'hosto avec une luxation d'épaule et le médecin, en plus de me soigner, il me dit « Bah frérot, on va t'opérer les deux épaules. » Et je me suis dit « Bah ça va durer genre 3 semaines, le temps de la réparation et 3 ans. »
Trois ans,
je m'arrête frérot, hyper long, hyper dégoûté. Et pendant ces 3 ans, je me dis « Vas-y, je me chauffe, je me motive, dès que je reviens, je déboîte tout. » Je suis revenu, j'ai tout déboîté. Du coup, j'ai passé ma ceinture noire. Et la fierté, dernier combat que je fais pour mon 100e point, dès que je le gagne, et je le fais rarement, j'ai pleuré devant tout le monde. J'ai lâché mes meilleures larmes et je me suis dit, bah ça y est, fin de la route, fin du boss, et j'étais trop trop content. Donc tout ça pour dire que oui, je suis ceinture noire, mais c'est pas juste un terme, encore une fois. Je pense à toutes les ceintures noires de tous les arts martiaux qui pourraient dire pareil. Il y a un mantra, il y a une mentalité derrière. Donc force à tous les pratiquants d'arts martiaux, gardez la tête haute et force à vous pour passer la ceinture noire prochainement.
Eh bien voilà, très bien, très belle chronique qui nous a rappelé les meilleures années de Quel of Dan Dojo.
Bravo.
Merci.
Ça va être le tour de Pierre Benoît très rapidement puisqu'il est 49 et qu'on doit.
Vous faites d'autres choses après.
On va parler vraiment de sport.
Ok, d'accord.
Parce que c'est le principe de l'émission.
Mais j'ai aussi parlé de sport. Moi, je vais vous raconter mes expériences sportives. Et puisque vous êtes tous des sportifs autour de la table, y compris mon cher Fadi, si j'avais su que tu parlais de judo, décidément, on aurait peut-être diffusé un Gims, ceinture noire, finalement, pour faire un lien entre sa chronique et
émission,
la pause musicale. Oui, c'est vrai, il faut que j'arrête de parler.
Enchaîne.
Expérience judo. Alors, attention, hein, c'est du rock. La première fois que j'ai fait du judo, j'avais 12 ans. Et donc, ceinture blanche, évidemment, pour faire le lien aussi avec ta chronique. Et je me suis retrouvé face à un enfant de 11 ans. Alors, quand t'as 12 ans et que l'autre a 11 ans, si tu veux, c'est important. Physiquement, t'es un peu plus fort
un
et
peu
tout.
Plus.
Mais il était ceinture orange. Et le problème, c'est qu'il était techniquement un peu plus fort, mais j'étais physiquement un peu plus âgé.
Et puis, il faut le dire, t'es une marmule. Enfin, pour les auditeurs qui nous écoutent,
t'es je passe difficilement la porte.
Ouais, si c'est une armoire à glace. On appelle ça une armoire à glace.
Enfin, c'est une porte comme une muraille de.
Enchaîne.
Bref. Tout ça pour dire, je me suis bloqué la glotte. Voilà, c'est ça la chute.
Ah, d'accord.
J'ai résisté, sauf que bah du coup il m'a quand même mis par terre et j'étais en boule et du coup ma glotte n'est pas la glotte de fond de gorge ici, la deuxième, celle qui permet de respirer ou d'avaler à manger.
D'accord.
Bah c'était bloqué.
Waouh.
Voilà, donc je me tourne vers le professeur qui on avait à peu près rien à foutre puisque j'étais là. Et puis lui fait bah, allez vas-y Arnaud. Bref, j'ai fait deux séances.
On passe le bonjour.
Le cochon, d'ailleurs j'ai une blague sur les cochons. C'est un cochon qui change.
Non, ça va aller.
C'est
du rock. Sinon j'ai fait du foot aussi. Alors j'ai commencé à 6 ans.
Oui.
Et pareil, un petit parallèle avec ta chronique. Je me suis pété la clavicule.
D'accord.
Voilà, en fait j'ai.
Comment c'est possible?
Alors j'avais 6 ans, il y avait un enfant de 9 ans qui a fait un coup franc.
Ouais.
Voilà. Il m'a dit baisse-toi. Je me suis baissé, mais peut-être pas assez. Je me suis juste pris le ballon.
Ah d'accord. Ah, c'est juste un ballon.
Et comme je suis une marmule, enfin.
J'espère qu'il a sifflé main au moins l'arbitre parce que.
C'était chez ma grand-mère, il n'y avait pas d'arbitre.
Ah d'accord.
Donc clavicule cassée et voilà, bref. Donc j'ai réessayé le foot un peu plus tard à l'âge de 10-11 ans en club. Poussin deuxième, ben c'est ça. Poussin deuxième année, je crois, c'était à l'époque les classements. Saint-Sulpice-des-Landes.
C'est possible, ouais.
Big up, jaune et vert comme les Canaries à l'époque. Et oui, je suis d'origine nantaise avant d'être angevin. Et là, grande et là. Saison, très grande
oh.
Saison. Et oui.
Qu'est-ce que
j'ai marqué 2 buts.
Oh, pas mal.
Dont un et sans faire exprès.
D'accord, c'est très fort.
C'était vraiment, il y a eu un corner. J'étais là, alors
tiens un ballon.
C'était un match vraiment, on écrasait les autres. Il y avait, je crois, 10-0 à ce moment-là. Vraiment, il y a un oiseau qui est passé, je l'ai regardé. J'ai été perturbé par un ballon qui m'a touché le pied. Donc j'ai regardé comme ça au sol et j'ai vu le ballon rentrer dans le but. Et tout le monde m'a sauté dessus.
Bravo.
Voilà, donc une très grande
le
saison.
Le but de l'année.
On n'a pas soulevé la coupe aux grandes oreilles, mais bon, voilà. Plus tard. Je continue dans les expériences sportives.
Ouais. Vas-y.
Tu me dis jusqu'à quand j'ai, hein, tu m'arrêtes.
Ouais, bah je te couperai.
Plus récemment, du coup, j'ai. Ah si, quand même, le vélo de course. Vous faites du vélo de course ou pas?
Bah, tous les samedis. Ouais.
Avec les pieds là qui se bloquent avec le truc en filet là,
non, avec des roues.
Ah, je vois de quoi tu parles par contre.
Des blonds et des bruns aussi ou non?
Enchaîne.
Que des roues. Enchaîne.
Enchaîne.
Donc, c'était ma grande peur. Hein. Je faisais du VTT, mais pas de vélo de course avec ces fameux pieds qui se bloquent dans les espèces de sangles. Et j'avais une frousse. Très peur.
Ouais, une petite peur.
Des poids lourds.
Des poids lourds.
Bah, des poids lourds que je pouvais rencontrer.
D'accord.
Parce que du haut de mes 11 ans, voilà, ça fait peur, un poids lourd qui dépasse. Tu te fais vite aspirer. Et mec, je prends mon vélo tout neuf, pas rassuré avec mes pieds dans les sangles. Je commence à descendre une côte en disant oh, ça va trop vite. Il y a un poids lourd qui arrive devant.
Oula.
Là, j'ai peur. Là, j'ai peur. J'ai essayé d'enlever mon pied. Mais mon pied, il est resté. Oui, ça sent le fossé. Je suis simplement allé m'échouer dans le fossé tranquillement,
oh oui,
la tête en première.
Oh oui, c'est excellent.
Ça va beaucoup mieux maintenant, le vélo. J'ai enlevé les sangles et ça marche du tonnerre.
J'ai enlevé les roues aussi.
J'ai enlevé les roues
très,
aussi.
Très, très vite, Pierre-Benoît, s'il te plaît.
J'ai tenté de faire sans pompe.
Et c'est un
échec. J'ai suivi un entraînement de ouf. En vrai, j'étais jusqu'à 50 pompes. Voilà.
Oui, enfin, la dernière fois que je t'ai vu faire des pompes, t'en as fait 5 et t'as eu des courbatures pendant 2 semaines.
Et bah, c'est la question à laquelle je voulais finir et conclure cette petite chronique passionnante parce que c'est du rock. Est-ce que vous aussi, vous avez des courbatures quand vous faites du sport après avoir pas fait du sport pendant très longtemps et mobiliser ses muscles en question?
Comme tout le monde, du coup.
Bah oui, c'est l'humain, c'est vraiment... en fait.
Pendant longtemps ou pas?
Les courbatures,
ça dépend, ouais. Bah, ça dépend de.
Bon, rarement plus d'une semaine.
Ah oui, quand même, une semaine, c'est normal.
Oui, mais quand tu n'as pas couru par exemple pendant plus d'un an, un an et demi, et que tu vas recourir, oui, tu peux avoir des courbatures.
Eh bien, je suis rassuré. Merci beaucoup. C'est du rock.
Merci beaucoup, le rocker Pierre Benoît, d'avoir été avec nous. Ça fait du bien d'avoir des chroniques un peu rigolotes avec nous. Donc, dans
c'est vrai que ça change.
Sport, ça change pas mal.
On s'emmerde.
C'est pas cool.
Évidemment, c'est faux.
C'est juste une expérience que j'ai vécue.
De toute façon, vous l'avez compris, c'est la dernière de oula.
Oh, ça va.
La dernière émission en tant que service civique. Donc voilà. On voulait faire un truc un peu plus différent et pour se dire au revoir à l'antenne une dernière fois.
Et on va enchaîner tout de suite sans plus tarder avec le 1-2. On va commencer par les petites infos de la semaine. On va commencer par le local Cholet Basket est passé tout près d'un gigantesque exploit la semaine passée avec ses 3 matchs contre l'ASVEL à l'occasion des quarts de finale de play-off. Les Choletais ont remporté la première manche à Lyon 74-70. C'était déjà un bel exploit. À la Meilleraie vendredi, ils avaient donc l'occasion en or d'éliminer le champion de France en titre. Malheureusement, malgré 3 premiers très bons cartons, l'ASVEL prend le meilleur sur Cholet et recolle à 1-1 dans la série. Dimanche, le match 3 fut également épique, mais c'est finalement Lyon qui l'emporte d'une courte tête, 84-82. Cholet tombe donc avec les honneurs en quart de finale face aux favoris à sa propre succession. À noter aussi 2 autres infos liées au CB. Johan Makundu, très bon cette saison, a été sélectionné en équipe de France. Et l'autre info, elle concerne la prochaine saison, puisque le club a déposé sa candidature pour disputer l'Eurocoupe en 2022-2023.
On va passer maintenant directement aux actus mondiales et internationales, puisque le SCO, la saison de Ligue 1 est terminée et la saison des Ducs est également terminée. On va quand même parler de foot avec d'abord la grosse actu de la semaine, ça a été la finale de la Ligue des Champions au Stade de France entre Liverpool et le Real Madrid. Victoire du Real Madrid 1-0, un but signé Vinicius. Et dans quelques jours, l'équipe de France de football sera de retour pour la Ligue des Nations avec un match d'abord face au Danemark avant d'affronter la Croatie, l'Autriche. Et la Croatie, une fois de plus, ce sera d'ici la fin, mi-juin, pardon, je vais trouver mes mots.
On va enchaîner tout de suite avec, on profite que Faustin soit là pour parler de la NBA un petit peu. Donc on est sur une finale une finale NBA qui sera vraisemblablement donc Boston face à Golden State, si je dis pas de bêtises.
Exactement.
Tes pronostics comme d'habitude?
Moi j'avais dit au début des playoffs Boston allait gagner. Oui. Donc ça a l'air de se concrétiser. Après ils sortent de deux séries en 7 matchs, donc ils sont un peu fatigués par rapport au Golden State, mais ça va être serré, ça va être intéressant.
Donc on suivra ça de près, puis tu reviendras évidemment dans l'émission pour en parler. Petit mot de F1, c'était le Grand Prix de Monaco ce week-end, et c'est j'ai oublié, Sergio Perez qui a remporté la course, et malheureusement pas Charles Leclerc, le monégasque qui courait à domicile.
On va parler maintenant très rapidement parce qu'il nous reste 2 minutes d'antenne, on va parler de Roland Garros, puisque aujourd'hui était une journée et est une journée exceptionnelle pour le tennis mondial. Tout à l'heure il y avait un très très gros quart de finale entre l'allemand Alexander Zverev et l'espagnol Carlos Alcaraz, qui était l'un des grands favoris de la compétition. Et bien Zverev, 3e au classement ATP, a battu Alcaraz en 4-7, 6-4, 6-4, 4-6, 7-6. Et puis ce soir, l'un des plus gros événements sportifs de l'année, un nouveau quart de finale alors Roland Garros dans le tournoi simple messieurs, puisque Novak Djokovic affronte Rafael Nadal. Que vous aimez le tennis ou le sport en général, branchez-vous sur ce match, il sera diffusé en intégralité et gratuitement sur Amazon Prime, donc branchez-vous sur la chaîne, puisque ce match risque d'être légendaire.
On va donc clôturer rapidement pour laisser la suite à Imaginaire. On remercie Fadi et Pierre-Benoît d'avoir été avec nous dans Génération Sport.
Merci à vous, merci de beaucoup. L'invitation.
Vous
merci
revenez quand vous voulez, évidemment. Merci Faustin, toi évidemment, t'es un habitué. Et merci à Max aussi d'être là, mine de rien.
Et puis on remercie également Cédric et les Bandits de Bouchard qui nous ont accompagnés durant la première moitié d'émission.
On se quitte avec le générique et puis on est de on sera de retour donc la semaine prochaine.
Le jour où on m'a dit, va falloir faire tout seul, j'ai d'abord fait.